Est-ce qu'il y a des choses qui te font de la peine parfois?
Non, jamais.
T'es plutôt en colère, quoi.
Je pense.
Être en colère, c'est un moyen de pas pleurer, en fait.
Moi, je pleure jamais. Je suis pas une chatte.
Tu sais, moi, je pleure parfois. Hein, quand, par exemple, si je m'engueule avec quelqu'un ou que je trouve qu'un truc est injuste. Parfois, même juste, j'écoute une chanson, ça me fait pleurer.
Moi, je pleure jamais.
Bon, on va faire une petite impro. Tu sais ce que c'est, une improvisation?
On va faire des petites impros qui ne seront jamais complètement des improvisations. On va s'écrire de temps en temps, au milieu des cours de lycée de certaines, des classes prépa d'autres, entre les textos amoureux, les danses, les musiques et la fac toute nouvelle. On va s'écrire de temps en temps et décider de quoi parler. Et puis l'on se verra deux fois par mois, une fois pour poser les bases de cette fameuse impro qui n'en est jamais vraiment une, et le lendemain pour enregistrer tout ça. Voilà la proposition que nous nous sommes faites d'une émission mensuelle avec des moins de 20 ans, toujours à moitié improvisée, toujours complètement sérieuse. Il est 14h, c'est le deuxième numéro de leur émission qui est toujours la vôtre. Bienvenue à tous. Et chaque mois, nous profitons de la curiosité sans borne de Nafissa Tou pour toute forme de musique, pour découvrir ou redécouvrir deux morceaux de son choix. Nafissa Tou, qu'est-ce qu'on entendra en fin d'émission?
Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux artistes. Un qui s'appelle Dynamic Duo, c'est des rappeurs coréens. Ils font du hip-hop. Et une deuxième qui s'appelle Evelyn King et c'est du disco.
L'envie de danser risque de vous chatouiller vers 14h50. Cette émission mensuelle se découpera toujours en deux grandes questions de société. Jodie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette émission-là?
Cette émission, c'est d'abord une façon à nous de donner notre point de vue sur des sujets de société. Ça sera un point de vue différent, un point de vue nouveau et un point de vue de jeune. On fait cette émission surtout pour se faire écouter, car pour une fois, on nous demande notre avis et on peut donner notre avis. Et ça nous permet d'avoir un rendez-vous mensuel, de nous revoir et de rencontrer de nouvelles personnes.
Alors par exemple, tu as rencontré la personne qui est à côté de toi, que tu ne connaissais pas, qui s'appelle ?
Jérôme.
On va faire un petit tour de table, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marwan.
Bonjour
Hicham. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Et bonjour Inès.
Bonjour.
Donc, comme tu viens de le dire, on aura toujours deux grands chantiers thématiques, deux grandes questions. À chaque fois, elles sont proposées par vous. Le premier moment de cette émission, c'est sur une idée de Sabrina, qu'on l'a bâtie. Il s'agissait de quoi, Sabrina ?
On se demandait tout simplement quel était l'impact de la télé-réalité, du cinéma et de la télévision sur les jeunes aujourd'hui.
Ce qui, par un chemin un peu détourné, nous a amené à votre court-métrage Chasse Royale, Lisa Coca et Romain Guéret. Il se trouve qu'il vient d'être primé meilleur court-métrage au Festival du film indépendant de Bordeaux. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Je t'appelle comment? En fait, on fait un casting pour un film. Et comme on cherche des ados, on vient dans le collège et tout. Il y a la directrice de Chasse Royale qui nous a laissé venir ici.
Mais dis, mais putain, je t'occupe pas, c'est qu'à faire là. Ouais, ben c'est à moi, c'est madame Lisa qui m'a mis des heures de code, j'ai rien fait.
Il y a un rôle qui pourrait vraiment te correspondre, ce serait super si tu...
Eh, tu veux que j'ai que ça qu'à faire, mais fais-toi, tu casses les couilles là.
Vous êtes frères et sœurs tous les deux?
Ouais.
Ouais. En fait, Lisa, ta sœur, que demain, on faisait un casting à Chasse Royale, et j'aimerais bien qu'elle vienne pour un rôle, parce que je pense qu'elle pourrait être super.
Attends, ça, qu'est-ce que c'est, tu tapes trop, pour mettre un manteau là?
Bah, je pourrais venir au casting. Est-ce que moi je pourrais venir en
question? Tu peux venir si tu veux, mais par contre, on cherche un rôle de fille.
En tout cas, si ça t'intéresse, tu peux venir demain, c'est demain après-midi, dans la salle de réunion, à côté de l'infirmerie.
Mais attends-moi, Angélique!
On
a fait
tout propre demain, on va faire la vie de
maman. Vas-y, bouge ta mère.
Leur nom, leur nom.
Ah oui. Eh, c'est quoi votre nom de famille?
C'est Margueron!
Margueron?
Ouais, Margueron.
On vient d'écouter un extrait du film Chasse Royale et on se demandait comment aviez-vous rencontré les deux acteurs principaux?
Alors, on les a rencontrés tous les deux parce que Romane et moi, on faisait le casting d'un long métrage pour le cinéma et qu'on a été envoyés dans le nord de la France pour trouver certains rôles de cette bande d'ados qu'on cherchait. Et puis, dans ce collège, à Chasse Royale, on a atterri. On a rencontré deux ados, une fille et un garçon, qui nous ont donné envie d'écrire ce film et qui nous ont subjugués en casting, tant par leur personnalité que leur qualité d'acteur. Et puis voilà, à partir de là, on s'est dit, eh ben, on va écrire un film avec eux et pour eux, et on se lance, quoi. Et c'est notre premier film.
Peut-être justement, puisque vous parlez de l'écriture du scénario, on s'était dit que Jody, tu serais en mesure de nous faire un bon résumé du film qu'on a vu tous ensemble hier. On voit deux jeunes gens à l'écran principalement, qu'est-ce qui leur arrive ?
On suit l'histoire de deux réalisatrices qui sont dans un lycée dans le nord de la France, qui s'appelle dans un collège dans le nord de la France, qui s'appelle Chasse Royale. Elles sont là pour faire passer des castings et puis c'est là qu'elles rencontrent l'adolescente qu'on entend. Elles veulent qu'elles fassent le casting absolument, puis au début elles ne veulent pas trop et au final elles finissent par le faire.
Est-ce que c'était aussi difficile de tourner avec des ados aussi turbulents, enfin avec une ado qui enchaînait les gros mots, qui n'était pas forcément coopérative avec vous?
Je reviens juste sur un tout petit truc, parce que du coup, donc Ashley et Corentin, qui sont les jeunes qu'on a rencontrés, les premiers, pour qui on a écrit le film, et ça revient un peu à la réponse de tes questions, on a commencé à travailler avec eux sur le film, on a commencé à écrire avec eux, à faire des improvisations pendant 8 mois, et pour différentes raisons, en fait, c'est pas eux qui sont dans le film, on les a perdus, entre guillemets, en fait... Ashley, au fur et à mesure, pour des raisons assez inhérentes au milieu dans lequel on mettait les pieds, a souhaité arrêter l'expérience. Non pas parce que ça se passait mal, mais parce qu'elle n'arrivait pas à se projeter plus loin avec nous. Et elle venait d'une famille gitane. Je pense que c'est des gens qui ont du mal à se projeter, qui ont du mal avec les règles. Enfin, ils le disent eux-mêmes, c'est compliqué, les horaires, Donc, en fait, avec Lise, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, elle ne venait plus au rendez-vous. Donc, on allait la chercher. On était dans une démarche où c'est toujours nous qui allions vers elle. Et donc, ça devenait compliqué. Donc, on s'est mis un accord commun pour arrêter l'expérience avec elle. Et puis, le Corentin... Le jeune garçon donc que jouait Eddie, lui a été placé dans une famille, on a dû arrêter. Donc on est reparti en casting pour faire ces... Donc Angélique et Eddie sont vraiment issus d'un casting après avoir écrit le scénario. Voilà, et pour répondre à ta question, c'était pas difficile pour nous. Enfin, je pense que ce qui était difficile, en fait, c'est l'approche, c'est réussir à créer un lien avec eux au début. Une fois que la confiance est là et que l'envie de travailler est partagée, c'était plutôt facile en fait. Enfin, ils avaient très envie de travailler avec nous et dès qu'on a validé ces rôles et qu'on leur a dit que c'était eux, il y a eu une vraie énergie et un vrai travail de groupe, Lise, Angélique, Eddie et moi, qu'on a créé. On a loué des petits appartements et on faisait beaucoup de sessions d'improvisation avec eux. Moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Après, c'est assez global. Il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, mais en tout cas, eux, par rapport à leur caractère et leur nature, étaient plutôt coopératifs, quoi. Après, sur le tournage, ce qui était compliqué, c'est qu'on avait très peu de temps. Donc, en fait, la difficulté, la plus grosse difficulté pour nous, c'était ça, parce que c'est un film qui est quand même assez long. Il fait 28 minutes. On le savait, donc on avait beaucoup, beaucoup préparé. C'était très important que les enfants soient à l'aise et connaissent leur texte et qu'ils puissent avoir une liberté autour de ça. Mais la difficulté, c'était vraiment une difficulté de temps et du coup de concentration pour eux. Le fait de devoir se concentrer très rapidement, très fort et pendant très longtemps. Ouais. Ça a été compliqué.
Dans le film, on voit que vous montrez vraiment la réalité de leur vie. On voit qu'il y a des scènes au niveau de leur domicile, comment ça se passe à l'école. Et je me demandais pourquoi vous n'avez pas fait tout simplement un documentaire plutôt qu'un film.
On a pensé plusieurs fois faire un documentaire, notamment parce qu'on avait beaucoup de mal à mener à bien ce projet et qu'on a pensé ne jamais réussir finalement à faire ce film avec nos jeunes comédiens. Donc avec toutes les images d'archives qu'on avait, on a à un moment pensé à effectivement faire un documentaire.
D'archives de casting et d'improvisation.
Parce que oui, la fabrication de ce film s'est faite vraiment en immersion dans leur milieu. On a beaucoup côtoyé, été dans leur collège, été dans leur famille, fait des séances d'improvisation avec eux. On a fait beaucoup de casting dans tous les collèges de la région et tout ça. Donc on disposait d'énormément d'images, d'enregistrements, de plein de choses, effectivement, de matière avec laquelle on aurait pu faire une jolie reconstitution documentaire, effectivement. évidemment. Mais on avait vraiment envie de cinéma et de raconter quelque chose, de rendre compte de notre expérience. C'est par ça, par ce biais-là qu'on avait envie de s'exprimer, en tout cas, et qu'on pensait pouvoir rendre audible notre propos.
Aussi, le vouloir faire du cinéma avec ses enfants, c'est ça, enfin, l'envie a vraiment émergé quand on a fait des castings et qu'en fait, c'est le rapport qu'ils avaient au jeu qui nous a vraiment, enfin, subjugué, quoi. Qu'ils puissent s'exprimer en étant pas vraiment eux-mêmes et donc des rôles et donc écrits. Et je pense qu'avec Lise, c'est ce qui nous lie dans cette passion de diriger des comédiens et d'autant plus des jeunes comédiens. Issue du casting sauvage, et c'est vraiment ça aussi qui nous a donné envie de faire de la fiction.
Est-ce que tu peux te présenter en deux mots, s'il te plaît ?
Je dis quoi ?
Oh, juste, je m'appelle Angélique, j'ai tel âge.
Je m'appelle Angélique, j'ai 13 ans, c'est beau.
T'es en quelle classe ?
5e.
Ok. Dans quel collège ?
Chasse Royale.
Ok. Et ça se passe bien, l'école ?
Moi, j'ai redoublé.
Pourquoi ?
Je sais pas, je travaillais pas, je traitais mes profs et tout.
Tu traitais tes profs de quoi ?
De pute et tout.
Mais tu dis ça devant eux, direct ?
Bah, c'est moi, je les aime pas.
Et chez toi, ça va ? Ta mère aussi, tu lui en fais voir de toutes les couleurs comme ça ?
Non, je suis gentille parce qu'elle me fait chier.
Tu fais quoi ?
J'écris sur les carottes des voisins, nique ta mère et tout. Sur les carottes des centres sociaux et tout.
Mais après, tu te fais choper, non ?
Ouais, ils me disent de les laver, mais moi, je les lave pas, je devrais se faire chier.
Ouais, tu t'en fous de tout, en fait. Et comment tu vas faire, du coup, quand tu seras plus grande ?
Je sais pas.
Pour gagner ta vie, tout ça ?
Je sais pas.
Et y a des trucs que t'aimes bien, sinon ? Je sais pas, genre les trucs qui te font trop plaisir, par exemple, c'est quoi ?
Aller à la patinoire, regarder la télé, Facebook, à la Valenciennes. Et faire le bordel.
Faire le bordel ? Ça te fait quelle sensation de faire le bordel ?
Ben, je sais pas, en vrai, ça te sent que ben, voilà, quoi, tout le monde te regarde, t'aimes bien. Moi, en tout cas, j'aime bien. Ma mère, elle me dit que je suis méchante, que j'ai un caractère de merde, que je me moque de la gueule des gens, que je me fous de leur gueule. Elle me fait, ouais, je sais pas de qui tu te charmes, mais t'as un caractère de merde. Ça dit que tu vois, genre, ma mère n'a pas le caractère comme ça, ni mon père d'ailleurs.
Alors, on vient de réécouter une scène du film Chasse Royale. Alors, c'est au moment où Angélique, l'adolescente du film, accepte finalement de passer le casting. Dans cette scène, on voit Angélique qui, avant de parler, repère beaucoup de choses sur les réalisatrices, c'est-à-dire le sac, les bijoux, les chaussures. Et on entend une des réalisatrices répondre au téléphone et tout. Et on se demandait si ça serait pas un monde qui rencontre un autre monde. Parce que dans le film, on se rend compte qu'Angélique n'a pas une situation sociale extraordinaire. Et alors qu'en face d'elle, on imagine que les réalisatrices, elles, ont plutôt une situation sociale un peu mieux qu'elle. Du coup, on se demandait si ça serait pas une rencontre entre deux mondes.
Ouais, t'as complètement raison. C'est vraiment de ça dont parle le film. On a voulu parler de deux milieux sociaux très différents qui se rencontrent et de cette possibilité ou de cette impossibilité de rencontre-là, de cette convergence ratée en fait entre deux univers que beaucoup de choses opposent et puis pas complètement non plus, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir aussi à quel endroit le lien peut se créer et il y a des ressemblances quand même entre nous, quoi.
Et en l'occurrence, il y a un lien qui se crée par le montage, puisque le casting se termine sur cette question. Est-ce que tu pleures de temps en temps ? Est-ce qu'il y a des choses qui te font pleurer ? Et Angélique qui dit non, je pleure pas, je suis pas une fiotte. Mmh. Et la scène qui suit est une scène après une course au ralenti où elle est dans un bus et on sait pas si elle a sué ou si elle est émue ou si elle pleure, mais en tout cas, on a la sensation qu'il s'est passé quelque chose pour elle. Donc peut-être que la rencontre, elle se situe aussi sur le champ de la possibilité de s'exprimer qu'offre quand même le casting. Mmh.
Bah, c'est exactement ça, ouais. Pour nous, dans le schéma du film, c'est une scène centrale, un moment où voilà, les choses changent. On ne sait pas pourquoi ni comment, et on essaye de ne pas vraiment trop répondre à ça et de laisser chacun imaginer ce qu'il veut. Mais cette rencontre, en tout cas, fait naître quelque chose chez elle. Ça nous paraissait joli qu'il y ait ce moment dans le bus où elle... pose le regard sur sa vie et sur Valenciennes et sur ce qui l'entoure. Enfin, voilà, c'est un peu des moments qu'on a tous un peu vécu dans notre voiture avec la musique qui nous fait pleurer.
Du coup, moi, je voyais peut-être une approche un peu plus lutte des classes, en fait, dans le film. C'est-à-dire que c'est avec le montage, on voit là, les bijoux, les beaux habits des gens qui viennent faire le casting dans un milieu qui est pas le leur. Hein. On voit très bien dans le domicile d'Angélique, c'est le bordel, ça a l'air d'être une très petite bâtisse. Mmh. Et du coup, j'avais plus l'impression que lorsque c'était le casting, que c'était ce milieu haut qui venait s'abaisser vers le bas pour l'utiliser avec un casting. Et du coup, pour moi, ça faisait très lutte des classes en mode je suis au-dessus de toi et je vais t'utiliser pour faire quelque chose qui est sur toi, mais plus pour me foutre de ta gueule.
Alors, bah, effectivement, il y a une critique de ça. Il y a une critique du monde du cinéma et puis plus globalement du monde de l'art, des milieux intellectuels, des milieux bourgeois. Ce qu'on a voulu dire à travers ce film, c'est quelque chose de pas aussi manichéen que ça. C'est-à-dire qu'on essaye de poser aucune conclusion et de juger personne, mais de regarder, en tout cas, de quelle manière ces projections réciproques d'un monde sur l'autre se font. Et puis, effectivement, parler de cette marginalité qui est valorisée dans le monde de l'art, de cette fascination récurrente aux racines un peu troubles, parfois, pour les milieux populaires, de la pratique du casting sauvage, qui est un métier qui comporte une certaine ambivalence entre quelque chose d'altruiste et puis, en même temps, un certain voyeurisme. Donc voilà, si jamais... Pardon.
Je vous coupe, mais qui était du coup, par conséquent, une façon de réfléchir à une pratique que vous-même, vous aviez eue, en fait.
Ouais, exactement, oui. Ouais, ouais. Et du coup, de poser aussi un regard critique sur notre métier et de dire aussi à quel point, à un moment, l'idée bien pensante et positive qu'on se faisait de notre démarche avec les jeunes a été à un moment déconstruite par l'expérience, quoi.
Moi, en fait, vu qu'on parle du montage, à chaque fois qu'on vous voit parler, que ce soit avec Angélique ou quand vous cherchez à ce qu'elle fasse le casting, on voit jamais votre visage. On voit jamais le visage aussi de la mère. Et Angélique, durant cette scène, parle de son père, mais on ne le voit pas non plus. Donc, je voulais savoir pourquoi avoir fait ce choix de cacher votre visage, celui de la mère et celui du père.
Alors, pour différentes raisons. Déjà, très rapidement, on s'est posé cette question avec Lise de notre place dans le film. Enfin, de notre place, c'est pas nous qui jouions, c'est des comédiennes. Mais on s'est posé la question de la place de l'adulte, en fait, au sein de ce film, sachant qu'on avait vraiment envie de travailler avec des enfants, sur les enfants, et d'écrire à hauteur d'enfants, donc comme si on faisait partie de la cour de récréation. Et c'est un vrai choix de mise en scène pour servir le propos. Et puis, c'est aussi un choix de point de vue, c'est-à-dire que le film, il parle pas vraiment du point de vue des directrices de casting, il parle surtout des enfants et des projections qu'ils font sur cet événement, quoi, qui se passe dans ce jour-là. Donc déjà, le sujet n'était pas celui-là, et en plus, par rapport aux parents...
Enfin, c'est surtout qu'à travers notre film, on offre déjà ce point de vue-là qui est le nôtre. Donc voilà, après, dans le film, on voulait donner à voir... Celui des
il y a
enfants.
De lecture, il y a voilà, le film qu'on fait et du coup notre point de vue parce que c'est notre film et puis ce qu'on raconte à l'intérieur du récit, quoi. Et pour ce qui est des parents, on a voulu garder un peu ce concept de pas voir d'adulte parce que donc celle qu'on voit qui est la grande sœur, en fait on a décidé de qu'elle fasse partie de la fratrie et donc de la laisser à une position d'enfant.
Cette absence aussi du visage de l'adulte, c'est un choix qui découle de ce qu'on a pu observer là-bas et de l'absence des adultes dans l'univers de ces ados qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont souvent en grande fratrie, en vase clos et qui s'occupent les uns des autres, quoi. Donc voilà, pour nous, ça venait représenter ça aussi.
D'accord. Vous venez de dire que les enfants étaient plutôt excités par rapport à cet événement. Ils étaient tous, ils rêvaient en fait un peu de ça. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que c'est ce que vous vouliez faire à travers le personnage du petit frère qui rêve de Paris, qui rêve de vivre ce rêve-là et enfin voilà.
Oui, bah oui, évidemment, ils ont pas du tout la même approche. Elle passe le casting et lui non, mais parce qu'elle cherche pas de petits garçons vraiment. Et donc il y a aussi le fantasme qui se fait lui parce que elle n'en parle pas beaucoup. Donc il vit un peu aussi autour de ce mystère du casting et il projette très vite des choses. Nous, on voulait que ce soit un personnage très curieux, que ce soit un personnage chaleureux, tendre. Pour nous, c'était un peu l'éponge et les sentiments et le vecteur des sentiments voilà, pour Angélique.
Après, quand on disait que c'était un événement, c'est pas forcément un événement positif. Toujours un événement positif pour eux. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de montrer à travers ces deux figures d'Angélique et d'Eddie. Elle est pas du tout aussi attirée que lui par ce milieu, ni par l'idée de jouer dans un film. Et c'est ça qu'on a voulu illustrer aussi. C'est que, voilà, les réactions peuvent être de la fascination, mais aussi de la défiance, une certaine violence parfois.
Et elle n'a pas le même âge et elle n'a pas le même genre et elle a probablement pas non plus le même rapport à l'illusion qui va avec une forme de rêve de célébrité. Il y a aussi ça qui se joue dans le portrait d'une fratrie, c'est l'écart du temps qui passe. Même si elle continue d'être ambivalente, parce que en même temps, dans une scène qui succède à la scène du casting, un peu plus loin, on la voit dans la cour d'école, elle discute avec ses copines et elle fait le compte-rendu par le menu d'une émission de télé-réalité. Donc, elle est dedans, dehors, tout le temps.
Parce qu'il y a aussi ça qui change, c'est en termes de médias, ils posent pas le même regard, que ce soit de la télé-réalité, du cinéma, etc. Et c'est vrai que le cinéma, c'est des enfants qui, par exemple, ont pour beaucoup jamais mis les pieds dans une salle de cinéma. Donc, c'est quelque chose qui leur parle pas du tout autant que si on venait leur proposer de passer dans une émission de télé ou d'être dans un magazine. Enfin, voilà, c'est déjà autre chose, quoi.
Quand on est allé faire des castings là-bas, quand on parlait de casting, aucun ne pensait spontanément au cinéma. C'était tout de suite, c'est pour la télé, c'est pour une émission de télé. Et quand on leur expliquait, non, c'est pour le cinéma, c'est pour un court-métrage, là, c'était encore plus flou parce qu'ils n'ont vraiment pas accès à ce format et puis même à ce genre de film. Nous, avec Lise, on a voulu faire découvrir deux films qui nous avaient influencés, entre guillemets, pour Chasse Royale. Ils ont été confrontés à un genre de film complètement inconnu pour eux. Et ça leur a plutôt plu.
Vous venez de dire que pour eux, c'est quelque chose dont ils n'ont pas accès, ou, enfin, les salles de cinéma, des choses comme ça. C'est pour ça que dans le film, pour Eddie, si sa sœur est prise au casting, ils vont aller vivre à Paris. C'est pour ça, pour eux, le cinéma, c'est Paris, la télé, c'est Paris. C'est pas chez eux, ou pour eux, c'est forcément Paris.
Oui, c'est-à-dire que pour eux, c'est le cœur de ce qui se passe médiatiquement, quoi. Donc, la seule fenêtre qu'ils ont sur ce monde-là, c'est leur télé. Et cette télé-là, elle vient nourrir tous ces fantasmes.
Par rapport à la narration, ça arrive assez vite après le moment où elle signe son contrat, quoi, avec sa mère. Et on imaginait aussi qu'entre les lignes, ils avaient eu des gens de l'équipe et qu'on leur avait dit que le casting, le dernier rendez-vous serait à Paris. Donc on imaginait aussi ça, peut-être que c'était fluide que pour nous, mais on avait imaginé que ça allait, enfin, qu'ils avaient eu des informations et que du coup la mère avait parlé du cimetière et que lui, c'était par curiosité, s'était informé. Voilà, c'était plus que vraiment le symbole du cinéma, c'est Paris. Je sais pas si on a vraiment.
Mais nous, on a peut-être, en tout cas, on a projeté quelque chose de plus symbolique sur cette idée de la centralité de Paris et d'un casting qui, quand même, se passe à Valenciennes.
C'est très symbolique.
Ça, déjà dans la scène de famille, effectivement.
C'est très symbolique. La capitale, et puis c'est pareil, c'est l'inconnu. Enfin, du coup, ils en font quelque chose de vertigineux
et de tendre et de voilà, ouais. ce petit garçon qui monte combien de fois pour essayer de trouver le nombre exact des marches de la Tour Eiffel, c'est aussi toute la magie dans laquelle il se projette.
Et puis il y a ce groupe Section d'Assaut qui
vient nourrir le
fantasme,
qui
vient nourrir ça, et en plus on a choisi une chanson qui parle de Paris,
qui dit Paris va bien,
voilà, ouais. Très bling bling, très voilà, ça suit un peu la course d'Eddie à ce moment-là.
Dernière question, Marwan.
Ouais, du coup moi ça me faisait lorsque l'adolescent faisait oui, moi je veux aller à Paris et je veux aller à Paris, Paris ça a l'air génial, on va aller à Paris grâce à tout ça, ça me faisait un peu penser à ce que en fait, si on n'est pas à Paris, on peut pas avoir forcément de culture, parce que même dans le casting, Angélique, on lui demande c'est quoi son type de film préféré, elle est pas capable de répondre, elle fait oh j'en ai pas. Ça me faisait penser au fait que si on n'est pas à Paris, la connaissance est beaucoup plus compliquée à avoir. Parce qu'il y a un système d'acculturation qui si on n'est pas, en tout cas proche de Paris, si on est dans les campagnes, etc., on a beaucoup plus de mal à avoir cette culture.
Est-ce que c'est un propos de Chasse Royale ?
C'est pas un propos prégnant du film, mais après, effectivement, oui, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que c'est une réalité du milieu social dans lequel ils sont. Et ils ont un accès vachement moins facile que vous à la culture. Ça reste des zones enclavées où il se passe pas grand chose et où l'ennui est assez présent et il faut faire avec un environnement plus vide, quoi.
C'est pour ça que vous vouliez absolument les payer ? Parce que j'ai vu quelque part que vous n'étiez pas payé, mais que vous vouliez absolument est-ce que les enfants soient payés.
En fait, on voulait que ils aient que symboliquement ils comprennent que c'était un travail, que c'était aussi une expérience très humaine et qui leur apportait beaucoup de choses, mais que c'était avant tout, on leur offrait aussi la possibilité de travailler et on voulait qu'ils le prennent au sérieux et que ce soit...
Et leur donner le goût de l'effort aussi à travers ça, quoi.
D'accord. Et en plus, je trouve ça très joli de me dire qu'ils ont un peu d'argent et que à leur majorité, ils pourront...
faire quelque chose de leur...
Avec, voilà, ouais. Grâce à la Chasse Royale, quoi.
Inès, tu rappelles le titre du court-métrage ?
Chasse Royale.
Bah ouais, Chasse Royale. Merci beaucoup Lisa Coca et Romane Guéret d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci à vous. Midnight. It's midnight.
Everybody always picking on me.
On est dans l'émission.
Sans France Culture.
We don't think there's enough well-written female parts. Decided to write two. Sort of where the story kind of started. Decided to make, you know, film noir with the woman as the protagonist. And, you know, have the sort of sexy woman, but have her not be evil. Some would say that we have some sort of telepathy or symbiotic relationship. Others would say we just have one idea.
Ta-da!
Lily Wachowski was all smiles as she picked up her GLAAD Media Award Saturday. The event marked her first public appearance since coming out as transgender.
On entend deux extraits d'émissions tirés de la télévision américaine où deux frères Wachowski, dans un premier temps, discutent de la manière dont ils écrivent des scénarios, puis ensuite l'apparition tonitruante d'une personne sous l'apparence d'une femme, qui est Lily Wachowski, et qui est l'un des frères qui a opéré une transformation, ce qui nous permet d'arriver au deuxième plateau de cette émission que vous avez imaginé. Jérôme, c'est toi qui as suggéré de travailler sur ce sujet-là. Alors, à quoi tu avais envie de réfléchir ?
J'ai eu envie d'aborder ce sujet qui commence à faire parler de lui en ce moment. L'idée qu'on puisse être 50 ans un homme, 50 ans une femme, je trouvais ça moderne, visionnaire. Et ça fait écho à ce que vous étudiez, le transhumanisme. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de ce sujet.
Et alors, vous étudiez, tu t'adresses à l'invité que nous avons convié, Christina Lindemeyer, vous êtes psychanalyste, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 7 Diderot, vous êtes chercheuse en délégation au pôle de recherche santé connectée et humain augmenté, puis vous travaillez sur cette notion d'humain augmenté et vous avez publié plusieurs articles à ce sujet. Jérôme.
Bah, moi, je voulais tout facilement savoir, est-ce que le fait de vouloir transformer son corps, d'avoir une double personnalité, ça a toujours existé ou c'est un phénomène récent
Bon, d'abord, il faut peut-être revenir sur le paradigme de l'humain augmenté, appelé aux États-Unis l'humain amélioré, c'est-à-dire c'est l'idée qui s'appuie sur l'idéologie de pouvoir améliorer la condition humaine. Tout simplement nous débarrasser de la mort, de la maladie, du vieillissement, de la sexualité, enfin tout ce qui constitue en même temps l'humain. Effectivement, le transhumanisme est l'expression la plus actuelle de cette idéologie. Et pour cela, il n'hésite pas à développer des pratiques qui vont traiter le corps d'une façon très particulière, c'est-à-dire c'est un corps qui est traité comme s'il s'agissait d'un objet qu'on peut réparer, modifier comme on veut, à la façon qu'on veut. Alors, la question concernant la sexualité et le fait de pouvoir changer de sexe, ce n'est pas c'est pas nouveau chez les humains, elle existe depuis toujours, elle fait même partie constitutif de la structuration de la sexualité humaine. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on peut actuellement passer à l'acte et faire ce type d'intervention. Et aussi, ce qui est nouveau, c'est le fait que la société soutient ce type de passage à l'acte. Donc une société qui va plutôt privilégier l'apparence, l'image, et non plus la réflexion ou le discours ou enfin, tout ce qui concerne les sciences humaines.
Donc c'est une société qui va aussi favoriser la liberté des individus, hein, puisque quand on parle de transformation, alors d'ailleurs on parle davantage de transformation de genre que de transformation de sexe, parce qu'on oui. fait la différence entre un genre, une identité de genre et une sexualité. Est-ce que vous diriez que c'est une société qui permet à chaque individu d'aller plus proche de sa liberté d'être soi ?
Alors, c'est la question de liberté qui pose question. Je ne sais pas si on peut parler de liberté ou si on peut aussi envisager la chose comme une régression à une situation plus infantile, puisque il s'agissant de cette situation de sexualité et le fantasme bisexuel, qui est un fantasme qui existe toujours, c'est un fantasme qui accompagnait l'enfant. Enfin, l'enfant, au départ, il est dans une espèce d'indifférenciation jusqu'à 2 ans, quand il va rencontrer la différence sexuelle. Et alors là, sa vie va changer, ça va être une révolution. Il va se poser des questions par rapport à son propre corps, le corps de l'autre. Il va commencer aussi à se poser des questions par rapport au corps des parents. Qu'est-ce que ses parents font entre eux ? Il va observer comment ils sont entre eux. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont seuls dans la chambre ? Enfin, l'enfant, il va commencer à créer ce qu'on appelle ses théories sexuelles infantiles. Et donc, si tout se passe bien, à partir d'un certain moment, il va rentrer dans une phase d'endormissement, ce qu'on appelle la phase de latence, jusqu'à la puberté, où à nouveau, une nouvelle révolution arrive. Donc, la puberté, les organes, ils arrivent à une maturité génitale. Et donc, cela va s'imposer à l'adolescent et il va constituer son fantasme à partir du sexe de l'autre et ce qui lui manque à lui. Et donc, c'est cela, c'est-à-dire à partir de ce qui manque chez l'autre, qui va pouvoir organiser ce fantasme bisexuel. Vous voyez ? Donc, il y a un moment pendant l'enfance qu'il est très actif, il s'endort, il réapparaît à la puberté, il s'organise dans le meilleur des cas, ou pas, ça dépend. C'est pour ça justement que pendant l'adolescence, c'est une période très critique où beaucoup de choses explosent, amenées justement par cette transformation corporelle. Et à nouveau, ensuite, au moment de la ménopause et du vieillissement, à nouveau, il y a une réorganisation imposée par la transformation corporelle qui fait que le sujet va à nouveau rencontrer la question de la bisexualité.
Simplement, pour avant de te passer la parole, Marwan, j'ai vu que tu voulais poser une question. C'est-à-dire que ce que Jérôme présente ou vous présente à vous comme étant quelque chose de visionnaire, comme étant quelque chose du futur, c'est-à-dire la possibilité d'expérimenter les deux identités de genre, voire plus identités de genre, si on considère que d'autres entre-deux sont possibles, vous le présentez comme une régression.
Oui. Oui, c'est-à-dire on est dans un mouvement à l'opposé, si vous voulez, de ce qui propose le mouvement transhumaniste. Oui, parce que le sujet, enfin cette volonté de tout avoir, vous voyez, c'est tout à fait dans une position de tout avoir, c'est une position narcissique, et c'est justement ce qui caractérise l'enfant au début. Voilà.
Et tout donc, avoir, c'est-à-dire faire l'expérience d'un corps de femme ou d'une identité de femme, et ensuite faire l'expérience d'un corps d'homme.
Exactement. Voilà.
Du coup, moi, c'était plus une question sur la société. Est-ce que vous pensez que, d'une manière, en fait, dans le corps médical, il y a une désacralisation du corps, mais dans l'image médiatique des choses, par contre, là, le corps est vu comme une chose qui doit absolument être entretenue, qui doit être quelque chose de limite sacré, qui doit être comme ça, qui doit montrer l'image de la personne. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un problème entre la désacralisation et la sacralisation du corps dans le corps médiatique et dans le corps médical ?
Oui, le corps qui est privilégié et qui est mis en lumière, justement, c'est le corps apparence. Donc c'est la personne qui présente un corps parfait, selon la règle de la société actuelle, hein, parce que ça change d'une époque à l'autre, ils n'ont pas justement ce qui constitue ce corps-là, c'est-à-dire ce qui constitue la psyché de la personne. Ça, c'est écarté. Et donc, on sait très bien qu'une fois qu'on écarte l'âme, si vous voulez, pour ne pas être trop dans la psychanalyse, l'âme, ce que nous appelons la psyché, ça revient autrement, sous forme d'autres symptômes. Par exemple, dans ces transformations, on parle peu de l'effet d'après-coup transformation. Il y a un moment d'euphorie après l'intervention. Passé ce moment d'euphorie, on peut rencontrer des affects dépressifs très importants, des sensations de vide, un certain malaise s'installe, voire une situation plus amenant le sujet vers des passages à l'acte plus tragiques. Mais ça, on parle moins.
Est-ce que vous faites une différence entre des transformations qui ont trait au genre, à l'identité sexuelle, et des transformations qui ont trait à ce que vous disiez tout à l'heure, l'amélioration physique, l'amélioration du corps, pourquoi pas des prothèses, pourquoi pas une augmentation des capacités cognitives? Est-ce que vous faites une différence entre ces deux domaines-là?
Oui, je pense qu'il y a une différence, mais une chose qui, en vous écoutant, m'est revenue, ce n'est pas dans une critique par rapport à la fonctionnalité de ce qui on propose actuellement. Évidemment, avoir une prothèse pour pouvoir marcher, c'est très bien, mais c'est dans l'idée qu'on oublie justement toute la détresse qui existe aussi chez le sujet. C'est ça qui me paraît important, de ne pas perdre de vue. C'est-à-dire quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui n'est mal formé, quelqu'un qui n'est pas en accord avec son sexe, c'est quelqu'un qui souffre. Ce n'est pas seulement parce qu'on va le réparer dans son apparence qu'on va le réparer dans son âme. Et donc c'est toute cette dimension plus subjective qui est un peu invisible, qui d'ailleurs intéresse beaucoup justement la psychanalyse, qui du coup est mise de côté par la société. Elle est mise de côté, mais elle revient sous forme d'autres symptômes.
Elle est mise de côté ou presque elle est comme du coup bouchée par la prothèse ou la transformation apparente.
Voilà, exactement. Donc on ne veut pas voir, on reste dans un déni par rapport à cette question liée à la détresse du sujet, oui.
Mais dans ce cas, lorsqu'on a une blessure physique, c'est-à-dire que si, par exemple, on doit se faire amputer un bras, la détresse d'un homme, c'est là surtout la fonctionnalité de son corps, c'est pas forcément la fonctionnalité de son identité. C'est la fonctionnalité de « Ah, j'ai un bras en moins, je peux plus faire ça, ça ou ça. Mm-hmm. » Du coup, là, la prothèse, elle... Et c'est pas une question de remettre en cause l'identité de la personne, mais plutôt de la fonctionnalité de son corps.
Oui, mais cette situation d'accident va confronter la personne à une situation à une position d'impuissance, d'incapacité. Et c'est cette situation d'incapacité qui va faire appel, si vous voulez, à des vécus anciens qui vont réapparaître sur scène d'une façon douloureuse.
Et qui, selon vous, par la simple pose de prothèse, n'est pas entendu.
Exactement.
Oui. Jérôme ?
Oui, mais moi, je pense que ça y contribue. Mettre une prothèse, quand même, ça apaise un peu le mental. Après, j'ai jamais vécu ce... Mais je suppose que ça a quand même un impact sur comment il va être par rapport aux autres, comment la personne va être par rapport aux autres, son rapport à la société et aux autres.
Évidemment, évidemment. C'est pour ça que c'est pas, on n'est pas, je ne suis pas dans une position de contre ce type de proposition. Par contre, elle ne peut pas dénier toute une autre dimension qui est aussi présente au moment que quelqu'un souffre un accident ou qu'il est mal formé ou qu'il est dans une douleur par rapport à son sexe.
Quand on parle d'humain augmenté ou quand on parle de transhumanisme, on parle aussi d'une forme de confrontation à la mort. Il y a des travaux de modification du corps et des projets de modification génétique même qui entendent aller se frotter à ça, à notre, mm-hmm. à notre finitude. Est-ce que là encore, on est dans une autre catégorie pour vous, sur le champ de la psychanalyse ?
On est dans un mouvement, je pense, dans lequel ces propositions-là elles s'inscrivent, c'est-à-dire un mouvement de vouloir débarrasser l'homme de toutes ses contraintes corporelles. Ce qui est problématique, c'est que la mort, la sexualité, la maladie font partie justement de la vie. Et donc, ce n'est pas parce qu'on bouche, comme vous avez dit, par une prothèse ou par une intervention, la douleur qui est présente, elle va s'effacer.
Vous pensez que essayer, par exemple, de vouloir soigner une personne par des prothèses alors qu'elle est vouée à une fin, donc la mort, c'est un problème purement sociétal qui va amener des problèmes qui sont plus tard, par exemple, la population massive de la Terre qui va continuer à augmenter. Ça va poser un problème au niveau des ressources mondiales, etc. Donc le fait de vouloir à chaque fois modifier le corps, ça va forcément poser un problème qui va tous nous toucher au lieu de ne toucher de base que la personne en soi.
Oui, c'est pour ça que c'est une réflexion qu'il faut faire à plusieurs,
et qui est assez égoïste, et on revient au fait de l'enfant, de la régression.
Voilà, exactement. C'est dans une position très narcissique de moi, moi et moi. Voilà. Mais pour répondre à votre question, c'est pour ça que cette question de l'humain augmenté est une question qui doit être traitée sur plusieurs plans, avec plusieurs disciplines. Et donc la participation interdisciplinaire et la démarche interdisciplinaire, elle est nécessaire parce que ça engage d'autres disciplines, et non pas seulement la psychanalyse ou la médecine. Hein. Ça engage la sociologie, l'anthropologie, l'économie, le politique, enfin bon.
Moi, je vais revenir sur quand vous parliez de la détresse du sujet qui est mal dans sa peau ou qui lui manque un membre. Vous dites que se faire remplacer un membre ou changer de sexe n'est pas assez pour, entre guillemets, guérir la détresse du sujet. Mm-hmm. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait alors pour guérir cette détresse si changer la chose... qui le dérange n'est pas assez pour guérir ça.
Eh ben, c'est se couper de sa détresse, justement, cette partie invisible on n'a plus le temps dans la société dans laquelle nous sommes, on n'a plus le temps de s'en occuper.
C'est-à-dire que finalement, oui. Pour vous inviter peut-être à développer oui. cette idée du temps, ce serait une forme de réponse sociétale et individuelle très rapide ou très efficace à cette détresse-là, c'est-à-dire sans s'occuper finalement de savoir si c'est bien ou pas bien de changer son corps, de modifier son corps, de changer son sexe et son genre, vous vous dites que quel que soit le changement qu'on opère, ce qu'il manque, ce serait la parole ou la pensée qui devrait aller avec.
Voilà, exactement, qui est nécessaire justement et qui participe effectivement dans la mise en place même de la demande de réparer son corps. En vous écoutant, ça m'est revenu justement la question que vous avez posée par rapport à la sexualité.
Question de Jodie donc.
Oui, concernant donc la modification concernant le sexe. Alors, il ne faut pas oublier que dans toute intervention qui touche le corps, il y a des conséquences après. Par exemple, dès qu'on coupe une partie ou qu'on modifie une partie, un organe sexuel, parfois il y a certaines parties qui vont être anesthésiées. Donc on peut se demander, par exemple, comment la personne va faire pour éprouver du plaisir. Est-ce que justement le fait de se faire couper cette partie pour garder une apparence telle que la personne souhaite ne va pas justement l'enlever la possibilité d'avoir du plaisir par ce sexe-là? Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui amène ces personnes à préférer un sacrifice au bénéfice de l'apparence et non pas garder justement... la parole, le corps tel qu'il est.
Alors là, je vous invite toutes oui. et tous, par exemple, à écouter quelqu'un en parler, puisqu'on oui. on a reçu très récemment Diane Le Riche, qui est une personne qui a changé, qui a fait correspondre son corps à l'identité de genre qu'elle ressentait depuis son enfance et qui parle très bien de la manière dont elle trouve parfaitement du plaisir, y compris après transformation. Donc je me rappelle que l'une des questions, peut-être c'est là qu'on pourrait conclure tout de même, ou l'une des remarques que vous faisiez hier en préparant l'émission les uns les autres, vous disiez, mais comment cette dame, donc Madame Lidenmeyer, comment va-t-elle pouvoir parler de tout le monde? Est-ce que finalement, ce n'est pas une question de cas individuel? Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. Mm-hmm. C'est toi, Jodie, non? Peut-être tu le reformules mieux que moi.
Pour moi, c'était difficile d'imaginer une psychiatre qui n'est...
Psychanalyste.
Qui est elle-même... Enfin, qui elle-même n'a pas, entre guillemets, subi une intervention ou qui a changé de sexe ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'était difficile d'imaginer de vous entendre parler de ça avec la même sensibilité que si on avait invité quelqu'un qui a subi cette opération. Je ne sais pas si c'est compréhensible.
Mm-hmm. Oui, c'est une très bonne question, justement. C'est, chaque sujet, c'est un sujet à part. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quelqu'un qui va avoir recours à un type d'intervention comme celle-là, c'est-à-dire qu'il a toujours des conséquences dans l'après-coup, c'est quelqu'un qui est dans une souffrance assez importante. Donc, le psychanalyste, c'est un des acteurs, justement, pour pouvoir écouter ce type de souffrance. Mais effectivement, chacun apporte la sienne d'une façon personnalisée.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Vous écoutez notre émission sur France Culture.
Et comme promis, on retrouve Nafissa Tou pour cette chronique mensuelle consacrée à la musique. Alors tout à l'heure, tu nous as mis l'eau à la bouche en parlant d'un groupe coréen. Comment s'appelle-t-il ?
Il s'appelle Dynamic Duo. C'est un groupe que j'ai découvert grâce à mes sœurs, parce qu'on écoute un peu de tout dans les musiques et du coup on a décidé d'écouter un peu de musique coréenne. Et du coup on a un peu cherché sur YouTube et bah, là on est tombé sur eux. Enfin moi la musique personnellement m'a plu, du coup je me suis un peu plus intéressée. Je suis tombée sur cette musique qui s'appelle BAM.
Et alors comment est-ce qu'on cherche de la musique coréenne sur YouTube? Tu rentres quoi par exemple dans le moteur de recherche?
Par exemple je vais taper un genre de musique, du hip-hop, et je vais mettre coréen à côté. Ou Slow Jams et coréen à côté.
Et c'est comme ça que t'as trouvé Collectif Duo.
Exactement.
Bad girl gone better.
Let me do this one for you.
Bad girl gone better.
오전에 보낸 문자는 메아리가 없어 하루 종일 내 기분은 메가리가 없어. 친구들에게 밀고 당기는 중 사실 이가 던진 떡밥에 완전 낚이는 중 뒤집어놓지 내 속간이 전화 어깨 근처에 향수만 묻혀놓고 가냐 내가 너의 홍당샘은 아닌데 왜 항상 커피 아님 술만 어떤 먹고 가냐 너 놀라 내 캐릭터 bad girl 희망이란 채찍으로 내 맘을 고문해 나 어둠의 기사 여기 배트맨 girl 축하게 취한 널 집에 다 모셔주네 왠지 넌 사연 있는 여자 같아 가벼운 다음 배처럼 들었던 나 따에갈리게 해 너의 애매한 택도 어디야 지금 영화 예매해 택도 그녀는 bam bam
Alors si on tend l'oreille, on entend juste Bad Girl, donc c'est voilà, une partie du texte qui est en anglais. Si on tend un peu mieux l'oreille, le reste du texte est en quelle langue ?
Le reste du texte, il est en coréen.
Donc ça fait que tu comprends pas exactement tout ce qui se raconte.
Si, parce que déjà j'essaie d'apprendre un peu le coréen et j'ai regardé les traductions.
Et alors, de quoi il est question ?
Bah, en fait, il parle d'une fille, il raconte sa rencontre et il essaie un peu de la gérer, si on peut dire ça comme ça.
C'est-à-dire de la gérer ?
Bah, en fait, il lui fait des avances, elle répond et ensuite il essaie de la taquiner et du coup, c'est ce qu'il dit dans le refrain, quoi.
Tout à l'heure, tu as dit que ce groupe Dynamic Duo était donc un groupe coréen. Est-ce que c'est un groupe récent ?
Non, pas du tout. Ils se connaissent depuis la naissance, en fait. Ils ont grandi ensemble et eux deux, en fait, ils étaient dans le rap. Ils ont décidé de faire un groupe ensemble. En 1999, ils ont commencé leur groupe. Et ensuite, ils ont proposé plusieurs chansons à des maisons de disques. En 2004, eh ben, ils ont commencé à être vraiment dans la musique. Et dès qu'en 2004, ils ont sorti directement cet album. Dedans, il y avait cette musique. Du coup, c'était best-seller en 2004, quoi.
Best-seller, voilà. Est-ce que c'était best-seller du côté de la Corée
du côté de la Corée, du côté de la Corée. Ouais.
C'est quand même une forme de hip-hop qui est assez proche d'un hip-hop classique américain. Est-ce qu'il y a une spécificité à ce qu'ils offrent, eux, Dynamic Duo ? Ou c'est vraiment calqué sur quelque chose de presque du classical hip-hop ?
Non, ils mettent en fait, ils rapportent un peu... parce que le coréen, c'est pas une langue qu'on entend tout le temps. Et du coup, la K-pop, c'est quelque chose qui date un peu, mais c'est quelque chose de nouveau qui est ancré que maintenant, en fait. Et du coup, je trouve qu'ils rapportent un peu une chose nouvelle. Et rien que la langue, en fait, je la trouve déjà plus jolie. Et je pense qu'en fait, le fait que c'est en coréen, ça rapporte un truc. Et même la musique, elle est un peu groovy, un peu hip-hop, un peu rap. Et je trouve que pour moi, c'est unique.
Le fait que ce soit chanté en coréen, pour toi, ça change justement les sonorités et ça les fait légèrement se différencier de la production du hip-hop américain ou du hip-hop anglo-saxon du début des années 2000.
Exactement, parce qu'en fait... On a tendance à toujours dire que l'anglais, c'est une langue chantante, alors que le coréen, c'est tout autre chose. C'est aussi chantant que l'anglais. Pour moi, c'est plus beau et c'est... En fait, quand on parle le coréen, bah, on se rend compte vraiment des différentes tonalités. C'est plus joli, en fait, à écouter, à entendre.
Tout à l'heure, tu as dit que tu t'étais mis à apprendre le coréen. C'est précisément par le détour par la K-pop.
Ouais, c'est exactement pour ça, parce que c'était pas du tout un pays qui m'intéressait. Et quand j'ai connu la K-pop, eh ben, ça m'a tout de suite intéressée. Au début, en fait, c'était que les chanteurs qui m'intéressaient. Et plus j'étais dedans, plus la culture m'intéressait, plus il y a plein d'autres choses qui rentraient en compte. Et du coup, ouais, ça m'intéresse beaucoup maintenant.
Alors, t'apprends comment le coréen ?
Bah, il y a des applications, ou grâce aux chanteurs, ou des petits trucs comme ça, ben voilà.
Tu vas au-delà de simplement apprendre à gérer des histoires d'amour, voilà. Ou gérer des filles,
exactement.
Tu peux dire d'autres choses.
Exactement, j'essaie de... Enfin, je commence par les bases, et ensuite j'irai plus profondément plus tard, peut-être.
T'es venu avec un deuxième morceau, de quoi s'agit-il ?
Alors, le deuxième morceau, ça c'est du disco. Et c'est Evelyn King qui le chante. Et la musique, elle s'appelle Love's Come Down.
On écoute d'abord ?
D'accord.
Thank you.
Nafissatou, je te laisse nous redire le titre qu'on vient d'entendre et l'artiste qu'on vient d'entendre.
Alors le titre il s'appelle Love's Come Down de Evelyn King.
Tu nous en dis davantage ?
Oui, alors Evelyn King c'est une afro-américaine de 56 ans. Alors elle est active depuis 1977 dans la musique, mais cette musique elle est sortie en 1982, du coup ça fait très longtemps. Et elle s'est fait connaître parce qu'en fait sa mère elle travaillait dans une maison de disques et du coup elle l'a ramenée, elle a chanté et elle s'est fait un peu fait remarquer. Et c'est de là où cette musique elle est devenue un peu importante parce que déjà la disco s'est sortie en 1966 où elle est arrivée pas très longtemps après, ça a été un peu on va dire une petite révolution. Et voilà, sa musique, sa voix elle a vraiment plu aux gens donc.
Et elle te plaît à toi aussi, sa voix ?
Oui, exactement.
Comment est-ce que tu as découvert ce morceau qui date un peu, comme tu dis ?
Alors, c'est un ami de ma classe qui s'appelle Toufik, dédicace, qui m'a montré cette musique. Enfin, c'est la seule personne que j'ai connue, mis à part mes sœurs. On a un peu le même style de musique, en fait, dans tout. Du coup, on se donne des sons, on se les échange. Et du coup, il m'a échangé cette musique et je l'ai écoutée, et voilà.
Tout à l'heure, quand on a passé la musique, on était tous en train de l'écouter et de un petit peu danser. Pas beaucoup, mais un petit peu. C'est une musique qui s'y prête particulièrement. C'est une musique qui, toi, te fait danser.
Non, c'est une musique qui est faite pour danser, en fait.
Non, voilà. C'est basiquement une musique.
Non, c'est vraiment, elle est faite pour danser, en fait. Dans n'importe quelle fête ou ce que vous voulez, bah, cette musique, on la met et tout le monde va danser. Moi, elle me fait danser parce que moi, tout me fait danser, mais cette musique, elle fait danser tout le monde.
Je disais que tu serais la personne parfaite à inviter dans les soirées pour mixer de la musique et Jodie a dit oui, c'est la personne parfaite. Ça veut dire que tu as déjà testé ses qualités de DJ, Jodie ?
Ouais, plus d'une fois, c'est une personne qui sait mettre l'ambiance, on va dire, et pour n'importe quel événement, et ouais, elle s'y connaît en musique.
Voilà une musique qui sent la fin de semaine. Et bien, c'est la fin de cette deuxième édition de la mensuelle des Nouvelles Vagues que vous appelez autrement, Hicham.
On l'appelle notre émission. Et ce mois-ci, on avait au micro Jérômine, Jodie, Inès, Sabrina, Marwan et moi-même. Et Marie-Richeux, comme d'habitude, pour nous assister.
Bah, merci à tous d'avoir été là.
Merci.
Merci.
Vous pouvez retrouver notre mensuel des Nouvelles Vagues sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et franceculture.fr où vous pouvez nous réécouter. C'est notre émission, mais c'est aussi celle de Romain Bec de Lièvre, Inès Dupéron, Alice Ramon et Marie Richeux, bien sûr. C'est Véronique Villa qui réalise et aux manettes aujourd'hui, il y avait Cédric Châtelus. Dans un instant, Poésie, etc. avec Manu Farine. On vous retrouve le mois prochain.
Et moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine des Nouvelles Vagues.